100% d'Europe. Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. 2 ans après les accords de paix de Minsk, les combats n'ont pas complètement cessé dans l'est de l'Ukraine. Le bilan du conflit qui a débuté en 2014 s'établit désormais à 10 000 morts. Mais depuis 2015, la ligne de front ne bouge plus. Un peu en retrait de la zone de combat, certaines régions peuvent donc commencer à regarder vers l'avenir. C'est le cas de Kramatorsk, la capitale régionale côté ukrainien. La ville se situe à 80 km des hostilités. Mais sans travail, les jeunes ont peu d'espoir. Si ce n'est dans un lieu, Vilna Kata, la maison libre, qui se veut un lieu d'échange et qui sait peut-être un jour de formation. C'est le reportage de Sébastien Gobert.
L'existence, l'existentialisme, le développement de soi et le sens d'accomplissement. Ce soir, c'est la soirée du club de philosophie à Vilna Kata. Dans une autre salle, un groupe regarde un documentaire sur grand écran. Dans les couloirs, des jeunes gens échangent sur des canapés. Vilna Kata, dans le centre de Kramatorsk, bouillonne d'idées. Anastasia Strigelous a 19 ans, elle est responsable de Vilna Kata.
Cette plateforme est un lieu pour le développement des initiatives des gens.
C'est un endroit pour tous ceux qui ont un sens de l'initiative. Beaucoup de personnes ici à Kramatorsk ont été très heureux que cette plateforme soit créée, pour qu'ils viennent ici et que leurs idées, leurs projets prennent corps. Nous organisons des séminaires, des soirées, de la poésie, des concerts, etc.
Поэтические вечера, культурные мероприятия, концерты.
Vilna Kata, cela veut dire la maison libre en ukrainien. Un espace créé en 2014 grâce à un partenariat avec des associations à Lviv, la grande ville de l'ouest de l'Ukraine, à 1000 km de là. Vilna Kata bénéficie aussi de soutiens financiers internationaux, tels que l'organisme de coopération américain USAID. Des soutiens suffisants pour développer un espace unique à Kramatorsk, une ville qui est généralement perçue comme industrielle et très soviétique. Le local artistique de Vilna Kata est d'ailleurs perdu dans un ensemble de barres d'immeubles d'allure décrépite.
Je ne connais aucun autre endroit à Kramatorsk où on peut se détendre entre amis. Pourquoi se donner rendez-vous dans un autre endroit si tous mes amis sont déjà ici?
Le jeune Alexander est un assidu de Vilna Kata, qu'il voit comme une bouffée d'air frais dans la ville. En termes d'espace de réflexion et de création, mais aussi pour échapper à la politique et à la guerre. Les habitants de Kramatorsk restent traumatisés par les quelques mois passés sous le contrôle des séparatistes pro-russes en 2014. Il existait alors un courant d'idées en faveur d'un rattachement à la Russie. Mais dans l'espace Vilna Kata, on tient à rester en dehors des querelles politiques, comme l'explique la responsable Anastasia Strigelous.
Il suffit de venir ici pour se rendre compte qu'on ne parle pas de politique. On peut regarder des films sur la guerre ou une exposition, mais nous n'avons aucun message politique. Nous avons ouvert quand la situation était encore tendue ici en 2015. Il y avait beaucoup de gens avec des positions politiques différentes. Nous avons tous très bien travaillé.
Pour elle, il s'agit d'encourager les gens à inventer un nouveau Kramatorsk et un nouveau futur pour la région. Les perspectives pour la jeunesse sont limitées, hormis des emplois d'usine mal payés ou des petits boulots. Le départ vers d'autres villes du pays, voire pour l'étranger, s'impose souvent comme la seule alternative. À Vilna Kata, des cours de langue et des expositions offrent un nouveau regard sur le monde extérieur et font connaître des expériences d'ailleurs qui pourraient être transposées ici, à Kramatorsk. David Vardenian est un jeune étudiant de 18 ans.
Мне дают много возможностей. Эта платформа дает возможность развиваться, общаться с иностранцами.
Cet endroit offre beaucoup de possibilités. On peut développer notre personnalité, rencontrer des étrangers, apprendre plus de choses sur des questions artistiques. Avant, je ne savais pas comment m'exprimer, dans quelle direction aller. Et quand j'ai découvert cet endroit, je m'y suis senti bien. L'ambiance est chaleureuse, on peut échanger des idées et développer nos connaissances à travers des activités intéressantes. Ici, je suis devenu plus mûr qu'auparavant.
Vieille d'à peine 2 ans, l'expérience Vilna Kata se confronte déjà à une remise en question. Certains des premiers bénévoles ont quitté Kramatorsk pour aller chercher de nouvelles opportunités ailleurs. Les soutiens financiers se tarissent et le centre a dû trouver un nouveau local moins bien situé dans le centre-ville. Et surtout, le public n'est plus autant au rendez-vous qu'avant. comme l'explique Alexander.
Passer l'effet de nouveauté, beaucoup de gens ne savent pas quoi attendre de plus de Vilna Rata. D'autres séminaires, des formations peut-être. C'est à nous de renouveler notre offre.
Loin d'être une fatalité, cela peut être une opportunité.
En même temps, attirer des foules n'est pas le plus important pour nous. Ce n'est pas avec cela que nous évaluons notre travail. Nous avons un slogan. Apprends, travaille, détends-toi, aide les autres. C'est l'esprit de cet endroit. On peut y faire ce qu'on veut.
D'une manière ou d'une autre, ces jeunes gens trouveront le moyen de développer un espace de liberté qui leur convient. Mais une fois le pied à l'extérieur de Vilna Rata, la réalité morose de Kramatorsk les rattrape. Ils n'ont pas encore trouvé le moyen de changer cela.
Média. Nous vous en parlons régulièrement sur Accent d'Europe, la situation dramatique de la liberté de la presse en Turquie, arrestations arbitraires, fermeture de rédaction. Le régime du président Erdogan met tout en œuvre pour bâillonner les journalistes. En Allemagne, un important quotidien a décidé d'offrir une plateforme à ses journalistes de rester sur place avec un journal en ligne en allemand et en turc. Bonjour Julien Méchaussier.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant à Berlin et ce quotidien, Julien, c'est la Taz qui héberge donc désormais ce nouveau projet appelé Gazette.
Oui, et la Gazette, c'est donc un journal en ligne où paraît chaque jour un article de fond, une enquête traitant un sujet avec un angle qui aurait très peu de chance de paraître en Turquie. Rappelons, Frédéric, que la Turquie est la plus grande prison au monde pour les journalistes, avec près de 150 professionnels des médias actuellement derrière les barreaux. Et je me suis rendu à la rédaction berlinoise de la Gazette, où j'ai pu rencontrer Ebru Tazdemir, l'une des rédactrices qui réceptionne et adapte les articles envoyés depuis la Turquie. Un journal en ligne lancé le 19 janvier dernier, une date qui ne doit rien au hasard et qui rappelle le danger encouru par les journalistes turcs.
Cette date marque le 10e anniversaire de la mort de Ran Dink, un journaliste turc arménien qui était le rédacteur en chef du journal Agos. Il a été assassiné en plein jour devant sa rédaction et nous avons pensé que cette date symbolique serait le bon jour pour lancer notre projet.
Et si l'objectif premier, Frédéric, est bien sûr de redonner une voix aux journalistes et de traiter l'actualité turque avec indépendance, c'est également un signe fort de solidarité, comme le souligne Ebru Tazdemir.
Je suis convaincu que c'est un message très important pour tous les journalistes restés sur place, qu'ils sentent ce soutien depuis l'étranger. En Turquie, ils bénéficient d'un soutien très restreint, même s'il existe encore. Mais cela se passe désormais sur Internet et non plus dans les kiosques. Et même si de nouveaux petits sites d'information indépendants, des blogs apparaissent presque tous les jours, c'est un signe d'une toute autre portée lorsqu'un grand quotidien allemand marqué à gauche décide de s'engager.
D'autant, Julien, que la Taz n'est pas le seul média allemand à s'engager dans un pays qui compte une forte communauté turque.
Oui, les exemples sont nombreux. Le quotidien conservateur Frankfurter Allgemeine Zeitung accueille ainsi dans ses pages le journaliste Bülent Mumay, lui aussi passé par les geôles du régime. Le quotidien de centre-gauche Süddeutsche Zeitung offre également un espace au célèbre journaliste Yavuz Bedar. La VDR aussi, la grande chaîne de télévision régionale a également ouvert le site Türkei Uncensiert, la Turquie non censurée, sur lequel des journalistes turcs peuvent publier leurs textes, mais aussi des contenus audio et vidéo.
Et quels sont, Julien, les thèmes, les sujets qui font l'objet d'articles sur la Gazette ?
Alors évidemment, des papiers critiques à l'égard du pouvoir, mais pas uniquement. Il y a par exemple cet article fouillé la semaine dernière sur le mouvement de défense des droits des femmes, toujours très actif, ou bien une enquête sur les territoires kurdes qui ont subi ces derniers mois les bombardements et les destructions de l'armée. Et bien sûr, la répression endurée par les médias, notamment avec cet article décrit par Ebru Tazdemir.
L'un des derniers journaux d'opposition, Cumhuriyet, fait l'objet de nombreuses attaques de la part du gouvernement de l'AKP. Au mois d'octobre dernier, les rédacteurs en chef ainsi que des journalistes de ce journal ont été emprisonnés. Une détention qui vient de dépasser les 100 jours. Notre journaliste, Canan Çoşkun, a écrit une longue enquête sur ce sujet qu'elle connaît très bien.
Merci Julien Méchaussier à Berlin. À très bientôt.
Portrait.
Tamás Chál, retenez son nom, c'est un chef hongrois qui monte à 34 ans. Il a déjà remporté le Bocuse d'or européen et sa cuisine légère est aux antipodes des goulashs et autres panures, fritures qu'on associe généralement à la cuisine de son pays. Son portrait est signé Florence Labruyère.
Avec son éternelle barbe de 3 jours, son sourire espiègle et sa carrure de sportif, Tamás Chál est plutôt beau gosse. Et c'est aussi l'un des chefs les plus créatifs de sa génération. C'est en 2011 qu'il se fait connaître à l'âge de 29 ans. Il travaille alors au restaurant Onyx de Budapest et il décroche une étoile au guide Michelin. Le monde entier découvre la nouvelle cuisine hongroise. Tamás Chál revisite les plats traditionnels comme le goulash, cette soupe de viande au paprika, réputée pour sa lourdeur et sa richesse en matière grasse. Tamás Chál enlève le sein doux et sert un bœuf d'une tendresse exquise avec un délicieux bouillon aromatisé aux herbes. Fini les plats de gibier servis dans une sauce si épaisse qu'on pouvait la couper au couteau. Le jeune cuisinier leur donne une nouvelle saveur et réveille les papilles des Hongrois en leur servant des légumes craquants et des sauces inventives et légères. Après avoir été décoré par le Michelin, le jeune cuisinier quitte le restaurant pour se préparer au concours du Bocuse d'or. Entouré de grands cuisiniers, il s'entraîne pendant 1 an. Une préparation coûteuse. La rumeur dit que la femme du Premier ministre Viktor Orban y aurait contribué financièrement. En tout cas, Tamás Chál est récompensé de ses efforts, puisqu'en 2016, il gagne le Bocuse d'or européen. 1 an plus tard, il est classé 4e au Bocuse d'or mondial. Une consécration pour ce jeune chef qui aime découvrir le monde. Fin février, il ouvrira son restaurant à Budapest. Rien de luxueux, une petite cantine plus qu'un bistrot. Après la pression des dernières années, Tamás Chál veut cuisiner en prenant son temps.
Le marché de la voiture de collection se porte bien à tel point que les constructeurs et équipementiers proposent désormais des pièces et des services dédiés. C'est ce qu'a constaté Laurent Berthaud lors du dernier salon rétromobile qui se tenait la semaine dernière à Paris.
Le moteur de cette Citroën vieille de 55 ans n'est pas prêt de s'arrêter de tourner. Après avoir survécu aux différentes primes à la casse, les voitures anciennes séduisent de plus en plus, d'abord sur le papier. Jérôme Fombel, l'un des journalistes du magazine Autoplus Classique créé il y a 6 ans.
Les gens en fait se raccrochent toujours aux souvenirs et la voiture ancienne, donc la populaire française particulièrement, les gens adorent quand on roule dans la rue, c'est que des signes de la main, voilà, que des choses positives. Le vintage est à la mode de toute façon, que ce soit dans les habits, que ce soit dans la décoration, et je pense que c'est ce qu'ils retrouvent en tout cas dans les voitures anciennes, et surtout la simplicité de l'entretien aussi. Il ne faut pas oublier que dans une voiture ancienne, si je prends l'exemple d'une Renault 4, l'entretien est extrêmement facile et surtout ne coûte vraiment pas cher, on peut le faire vraiment soi-même.
Sauf que tout le monde ne sait pas ou n'a pas envie de mettre les mains dans le cambouis. Or en France, il est bien difficile de trouver un garagiste capable de changer des vis platinées ou de redresser une aile. On en dénombre 4000 contre 35000 en Allemagne. L'ancienne, un métier d'avenir, c'est la conviction de Luc Morel qui, à la tête du CNPA, propose depuis 18 mois une formation longue de restaurateur de véhicules anciens.
Les véhicules anciens en France, aujourd'hui, c'est 4000 entreprises, 20 000 emplois en équivalent temps plein et 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Sur les 4000 entreprises, d'ici 2025, 2600 seront dirigées par des gens qui auront dépassé l'âge de la retraite, avec un taux de reprise qui aujourd'hui est proche de zéro. Ce sont des savoir-faire qui depuis 30 ou 35 ans ne sont plus dispensés. Donc forcément, les gens qui ont acquis ces savoir-faire à l'école approchent aujourd'hui de l'âge de la retraite.
Parmi les entreprises emblématiques françaises, Méhari de Chevaux Club de Cassis, créé il y a plus de 30 ans et qui propose aujourd'hui à la vente à l'état neuf, pour plus de 20 000 euros quand même, les 2 véhicules emblématiques de chez Citroën et toutes leurs pièces détachées refabriquées. Édouard Chappert, responsable commercial.
Nous, le marché de la Méhari, effectivement, n'est pas un gros marché, c'est un marché niche, mais qui a réussi à développer une entreprise d'il y a 35 ans d'un petit garage Citroën, agence Citroën à Cassis, de 3 ou 4 personnes dans l'atelier. Actuellement, nous sommes une PME de plus de 50 employés. Et la sous-traitance, bien sûr. Donc c'est vrai que c'est un marché niche, mais qui permet de faire vivre une entreprise tout à fait correctement. Parce que nous, la crise, on ne l'a pas vu passer.
Et désormais, ce marché intéresse au plus haut point les acteurs du monde automobile. Au Royaume-Uni, pays qui a toujours chouchouté ses anciennes, les passionnés d'anglaise peuvent bénéficier des services de Jaguar Land Rover Classic, son directeur Tim Hanick.
Nous avons créé cette division il y a 2 ans afin de proposer aux passionnés de Jaguar et de Land Rover les modèles les plus emblématiques de la marque, mais aussi des pièces détachées. On offre également notre expertise. Il y a vraiment un marché et les clients sont prêts à dépenser beaucoup d'argent. On essaye d'en faire un business rentable, mais ce n'est pas l'intention première. Le but, c'est vraiment de permettre aux passionnés de maintenir ces voitures en vie et de continuer à les faire rouler sur les routes.
En France, PSA doit annoncer prochainement la refabrication de certaines pièces d'anciennes. L'équipementier allemand Bosch, fort d'une histoire de 130 ans, vient lui d'inaugurer en France son service Bosch Classique. Denis Regard, directeur commercial pièces et services pour la France.
Sur certaines pièces, on a de la difficulté à trouver de la pièce. Soit sur le marché de l'occasion, il y a un petit peu une envolée des prix, donc ça c'est gênant. Et le mieux, c'est quand nous, on peut refabriquer la pièce ou selon les clubs, associations, constructeurs, on est capable de faire des mini-séries. Ce qu'on a fait pour Mercedes sur BMW et je pense très prochainement pour Peugeot sur la 205, on va relancer aussi de l'optique de phare par exemple.
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui le marché est suffisamment important.
Mais le marché est là et puis je vais dire quelque chose qui est une évidence, mais c'est un marché à potentiel puisque tous les ans on gagne un an, forcément. Donc comme les véhicules de collection sont de plus de 30 ans, ça laisse augurer d'un très très beau potentiel.
Le marché de l'ancienne est prometteur. Pour sa 42e édition, Rétromobile a vu plus grand encore en exposant sur plus de 6 hectares. François Melsion, son directeur.
Il y a quand même plusieurs milliers de personnes qui vivent de l'automobile ancienne. Vous avez des sociétés qui vivent bien, des refabrications de pièces, des carrossiers, des tôliers, des selliers, tout ce petit monde qui vit autour. Et même les assureurs ont bien compris que l'automobile ancienne était un bon risque. Je pense qu'il y a effectivement un enjeu économique qui est quand même assez important par le biais de l'automobile ancienne. Et nous ici, on a quand même pas loin de 120 000 visiteurs attendus sur 5 jours. C'est donc pas un événement minime.
Autre signe positif adressé au monde des collectionneurs, à Paris, les véhicules de plus de 30 ans en carte grise collection ne sont pas concernés par les restrictions de circulation touchant les véhicules les plus polluants.
C'est une terre sauvage et idyllique. Le Donegal, tout au nord de l'Irlande, a été élu destination de choix numéro 1 par la revue National Geographic Traveller. Julien Lagache nous dit pourquoi.
Plus de 1000 km de côtes plus ou moins escarpées, des baies de sable fin paradisiaques, des routes qui longent les falaises de Slieve League parmi les plus hautes d'Europe et qui s'approchent au plus près du vide, bienvenue dans le Donegal où la nature n'en fait qu'à sa tête. Cette grande région sauvage, battue par les vents du nord-ouest, accessible par une seule route irlandaise à moins de passer par le Royaume-Uni, est à la fois cernée et constellée de lacs et de marais. Contrée aux prairies verdoyantes qui manient les contrastes, elle offre à la fois aux visiteurs ces vallées humides de pâturages côtiers et des panoramas secs où la végétation plus rousse, plus rare, dévoile entre deux étendues d'eau une terre rocailleuse qui annonce un paysage plus minéral, celui des montagnes de dérivés. On s'étonnerait presque d'en voir ici. D'ailleurs, le mont Errigal culmine à seulement 750 mètres, mais il en impose au beau milieu d'un espace aussi désert par sa pointe aiguisée, surtout lorsqu'elle se coiffe de neige par grand froid. Et il suffit de lever encore un peu plus les yeux pour admirer l'une des autres attractions du Donegal, les aurores boréales. Nombreuses sous ces latitudes, elles illuminent un peu plus ce décor lunaire. Les producteurs de Star Wars ne s'y sont pas trompés puisque le dernier né de la célèbre saga est passé tourner des scènes dans la région et ce sera encore le cas pour le prochain épisode 8 dans lequel on devrait apercevoir Malin Head, l'extrémité nord du pays qui est aussi le point de départ ou d'arrivée des randonneurs qui se frottent à la Wild Atlantic Way, le chemin qui longe toute la côte atlantique de l'Irlande. Mais le Donegal ne se résume pas qu'au paysage, puisqu'il compte aussi un patrimoine riche d'anciens châteaux qui racontent l'histoire de cette région. Il compte aussi des festivals de musique et d'art, ainsi qu'une importante partie du Gaeltacht, la communauté de langue irlandaise. Autrement dit, rien dans le Donegal n'est comme ailleurs.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Fabien Mugneret. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr et sur les réseaux sociaux. Et on se dit à demain.